Bertrand Saint-Cernin de l'Académie des sciences morales et politiques, ancien recteur d'université, est aussi philosophe des sciences. Après avoir proposé une série de quatre grandes figures de la philosophie des sciences, il propose une série sur les rapports entre l'homme et la nature. La première émission offre une réflexion sur nature et artifice. La deuxième s'intitule « Causalité et hasard ». La troisième est intitulée « Biosphère et technosphère ». Voici maintenant la quatrième, à laquelle Bertrand Saint-Cernin a donné un titre en forme de question. La philosophie des sciences peut-elle se présenter comme une philosophie de la nature ?
La philosophie des sciences peut-elle se présenter comme une philosophie de la nature ? Examinons à quelles conditions ce serait possible. Il faut d'abord que la cosmologie et l'anthropologie s'unifient, c'est-à-dire que, comme Critias le demande à l'astronome du Timée en 27a, on traite dans le même discours de l'origine de l'univers et de la nature de l'homme. Cet idéal était aussi celui de Pascal, qui ne dissocie pas le discours ordinaire de celui du géomètre à qui la finesse est indispensable. Je le cite, « Les esprits fins seraient géomètres s'ils pouvaient plier leur vue vers les principes inaccoutumés de géométrie. » Or, dans l'Antiquité, la réflexion sur l'univers prend la forme mathématique. Cela signifie que l'anthropologie, qui privilégie la forme dramatique, celle de la littérature et de l'histoire, doit tendre vers la forme mathématique dont les mathématiques sociales fournissent une esquisse. Or, il n'y a pas d'évidence irréfutable que les mathématiques auront le dernier mot. Il faut voter, dit Platon dans le Timée 51d, que les nombres, les formes géométriques, les relations causales, etc., font partie du réel au même titre que ce qui se voit, se sent, se touche, etc. En outre, l'unification de la cosmologie et de l'anthropologie n'est envisageable que si l'esprit accède, au moins dans certains domaines, aux causes qui produisent les êtres et les choses, c'est-à-dire au processus naturel. Le choix entre le positivisme, pour qui seules les lois sont accessibles à la science, et le réalisme, pour qui, outre les lois, les causes sont aussi accessibles à la science, commande donc notre conception de la réalité. Si le pari de Cournot et de Whitehead en faveur du réalisme est gagnable, la philosophie des sciences peut prendre la forme d'une philosophie de la nature. Et selon la formule de Goethe, nous avons accès, je le cite, à l'atelier divin de la création. Pour que ce but ne reste pas inaccessible, il faut que le hasard soit maîtrisé par la science et que sa nature soit comprise. Or, ce n'est qu'à partir du milieu du XVIIe siècle que Fermat et Pascal découvrent comment modéliser mathématiquement les jeux de hasard. En bientôt quatre siècles, de nouveaux champs sont conquis. Au cours du XVIIIe siècle, le duel, qui oppose deux joueurs intelligents, et le vote. Au XIXe siècle, les décisions des jurys prises à la pluralité des voix, les jeux non coopératifs dont traite Cournot, certains problèmes économiques de concurrence et d'équilibre, la mécanique statistique, au XXe siècle, la théorie des jeux généraux, la statistique économique, la microphysique. Reste à déterminer si le hasard, domestiqué par la science, résulte du défaut d'information de nos esprits finis ou si la contingence fait partie de la nature. Les sciences de la nature, et notamment la biologie, tendent à donner à l'idée de hasard une dimension ontologique. Examinons donc le pari du réalisme. Pour que la philosophie des sciences prenne la forme d'une philosophie de la nature, il faut que le pari du réalisme soit gagnable dans certains domaines et concevable dans tous les domaines. À cet égard, Cournot apparaît comme un modèle, mais il faut prouver que son réalisme n'est pas naïf, c'est-à-dire non pertinent au début du XXIe siècle. Cournot prend appui sur les succès de la chimie de synthèse. Il observe qu'on peut reproduire par art des substances naturelles et introduire dans la nature des corps qui n'y existent pas. Il y a donc fabrication artificielle de substances chimiques et mise au point de processus qui s'ajoutent aux processus naturels. Cournot se place dans la postérité du Timée, où Platon dit qu'il n'y a pas d'évidence irréfutable pour choisir entre un univers qui est uniquement sensible et un univers qui comprend dans sa texture des formes géométriques, des nombres, des schèmes causaux, etc. Nous sommes dans une situation analogue. Y a-t-il des critères de choix évidents pour décider entre Kant et Duhem d'un côté, Cournot et Whitehead de l'autre? Non. Le choix de Cournot et de Whitehead en faveur du réalisme procède d'une espérance métaphysique. Il ne doute pas que l'esprit humain soit capable de pénétrer les processus naturels, alors que Kant et Duhem refusent de faire de la philosophie des sciences une philosophie de la nature. D'où vient à Cournot et à Whitehead leur espérance réaliste? D'abord, de la science elle-même. C'est explicite chez Whitehead. Il prend comme critère de l'avancée de la science le fait que des disciplines longtemps indépendantes s'unifient, leurs relations externes devenant des relations internes. C'est le thème qu'il défend et illustre en 1925 dans Science and the Modern World, la science et le monde moderne. Le critère scientifique est insuffisant. Il se double chez Cournot et Whitehead d'un second critère. L'esprit humain peut restituer les processus naturels parce qu'il est lui-même une production de la nature. Les deux mathématiciens-philosophes gardent aussi à l'esprit l'idée selon laquelle Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il n'est donc pas absurde de créditer le travail rationnel d'une portée ontologique. Actuellement, le débat entre les deux formes du rationalisme, la forme positiviste et la forme réaliste, n'est pas tranché. Du point de vue pratique, pourtant, l'humanité est réaliste dans la mesure où elle attend de la technologie qu'elle devienne aussi fiable et même plus fiable que la nature. Du point de vue idéologique, l'écologie juge trop prétentieux l'idéal réaliste d'une reconstruction fidèle par l'art des processus naturels, sur le plan théorique, il subsiste encore bien des domaines où l'esprit, dans sa recherche de la vérité, trouve énigmatiques les opérations de la nature. L'esprit aspire au réalisme comme à un idéal de reconstitution causale des processus naturels, mais il ignore si cet objectif sera un jour complètement à sa portée. Transformer la philosophie des sciences en philosophie de la nature reste une espérance, c'est un pari que justifient les succès acquis, la chimie de synthèse par exemple, mais aussi l'idéal rationaliste selon lequel la science peut décrypter les opérations de la nature et par là les refaire ou les étendre par la chimie de synthèse et par les biotechnologies. Examinons à présent l'unification des sciences. La deuxième condition, en effet, pour que la philosophie des sciences se transforme en philosophie de la nature, c'est que les épistémologies régionales s'unifient. C'était l'idéal du positivisme logique, comme en témoigne l'œuvre de Karl Hempel, mais cette unification restait formelle et méthodologique. Pour les membres du cercle de Vienne, il n'y a pas une pluralité de types d'explications dans les sciences. Pour une philosophie des sciences réaliste, l'unification formelle et méthodologique ne suffit pas. Il faut en outre que les ontologies régionales, propres aux différentes disciplines, aient un principe d'unification. D'où la question, où résiderait ce principe d'unification? Est-ce que ce serait dans la physique, c'est-à-dire dans la mécanique quantique, ou bien dans la connaissance ordinaire, dans la perception, comme les phénoménologues sont tentés de l'affirmer, ou enfin dans une combinaison de la sensation et de la science? Whitehead, qui a exploré cette dernière voie dans « The Concept of Nature », le concept de nature, en 1920, reconnaît l'échec de l'unification de la poésie de la nature et de la science. Alors, il ne reste que deux approches, celle de la science et celle de la connaissance ordinaire. Il paraît hors de doute que la science porte mieux l'espérance réaliste que la connaissance ordinaire. Mais la science n'atteint cet objectif que si elle inclut dans son programme la connaissance ordinaire, c'est-à-dire l'expérience avec sa richesse et sa diversité. C'est loin d'être simple. Dans le Timée 56bc, Platon note que si notre prise expérimentale sur le réel est limitée, c'est que nous ne percevons pas les choses dans leur singularité, en raison de leur petitesse, mais nous les percevons seulement sous la forme d'agrégats visibles. Aujourd'hui encore, la biologie et la médecine doivent tenir compte de la variabilité individuelle des êtres vivants et de la multiplicité des espèces. Pour faire entrer cette diversité irréductible dans l'expérience, il faut constituer des séries de faits, événements et processus ayant entre eux un air de famille. Ce n'est possible qu'en recourant aux statistiques et au calcul des probabilités. Que signifie donc unifier le réel ? L'unification recherchée peut signifier ou bien la victoire de l'esprit organisateur de la science sur la diversité d'un réel rebelle, ou bien l'auto-organisation de la nature. Dans le premier cas, l'unité exprime une volonté de l'humanité et un programme scientifique, dans le second, une disposition de la nature. Dans un cas, l'unité est méthodologique, dans l'autre, elle est ontologique. Il faut choisir. Qu'est-ce qui prévaut dans l'univers ? Le désordre des choses, pour reprendre une formule de John Dupré, ou une harmonie entre les choses ? Est-ce que l'on opte pour la première ou pour la seconde hypothèse ? Faut-il voir dans la décision une conjecture de l'esprit, une représentation du monde, une Weltanschauung, ou la restitution fidèle de la marche des choses ? Si le désordre des choses prévaut, l'espoir de constituer une philosophie des sciences s'évanouit, et celui de transformer la philosophie des sciences en philosophie de la nature disparaît. La philosophie des sciences, si elle aspire à devenir philosophie de la nature, doit postuler que l'harmonie prévaut sur le désordre dans l'univers. C'est la thèse de Platon dans le Timée. Par là, on comprend que dès qu'elle rencontre le désordre, le chaos ou le fortuit, la science cherche à les contrôler et, si possible, à les réduire. La modélisation mathématique répond à ce but. Le calcul des probabilités et les statistiques en fournissent un bon exemple. La domestication du hasard, the taming of chance, comme dit Jan Hacking, fait apparaître deux choses. Un, il est facile de commettre des erreurs de jugement dans l'évaluation des probabilités, c'est-à-dire dans les statistiques. Deux, il est difficile de discerner si le hasard exprime seulement notre ignorance ou s'il traduit une contingence objective dans la nature, étant entendu que les règles formelles du calcul des probabilités, à savoir ces axiomes, sont les mêmes. Examinons donc la place du hasard dans le réel. Le calcul des probabilités soulève en effet une question relative à l'ontologie de la nature. Les processus naturels sont-ils déterminés par les conditions initiales et les lois, comme le suppose la mécanique classique, ou comportent-ils une part d'événements fortuits et imprévisibles, comme le pense Cournot ? Si la nature comporte du fortuit, deux questions se posent. Une science de la nature est-elle possible ? Et si oui, le pari du réalisme est-il tenable ? À ces deux interrogations, Cournot répond par l'affirmative. Au XIXe siècle, la réflexion sur la science suscite l'interrogation suivante. Faut-il, dans le sillage de la mécanique newtonienne, considérer que tout dans la nature s'enchaîne de façon déterministe, ou y a-t-il des événements qui résultent de la rencontre imprévisible de séries causales indépendantes ? En un mot, qui, de Laplace ou de Cournot, a raison ? Laplace estime que si notre information sur le cours des choses était parfaite, les rencontres fortuites disparaîtraient. Cournot, en revanche, juge que puisque des entités causales indépendantes existent dans la nature et qu'elles peuvent se rencontrer, un démon intelligent et disposant d'une information parfaite se trouverait, lui aussi, face à des événements imprévisibles. Or, la théorie de l'évolution, au moyen de la sélection naturelle, repose sur l'idée que de telles rencontres fortuites se produisent bien. Elle fournit donc une illustration majeure de l'idée de hasard au sens de Cournot. Cet état de choses ne constitue aucunement une entrave à l'approche causale du réel. Pour Cournot, ce qui génère les événements imprévisibles, c'est que le réel soit composé de régions qui se rencontrent après avoir été indépendantes, parfois pendant très longtemps. Il suffit qu'il existe dans la nature deux régions de ce type pour que, si elles se rencontrent, des événements imprévisibles surgissent. Le hasard ne dispute pas son empire à la causalité, il introduit une distinction entre la causalité régulière, propre à un ordre de phénomène, et la causalité fortuite, qui traduit la rencontre de deux ou de plusieurs ordres de phénomènes jusque-là indépendants. L'idée de hasard n'est donc pas contraire à l'hypothèse réaliste. Elle exprime que la contingence fait partie de la nature, c'est-à-dire que, selon la formule qu'employait déjà au IVe siècle Grégoire de Nyssa dans La création de l'homme, chapitre 3, Dieu improvise. Aposkedia zetai, dit-il. Cette idée sera reprise au XXe siècle, dans une autre perspective, par François Gros, sous la forme du bricolage, tinkering, de la nature. Cela signifie notamment qu'il ne faut pas chercher dans le devenir l'exécution d'un plan originaire, mais que, selon l'idée de Whitehead, la créativité est la marque essentielle de l'univers. Au cours du temps, de nouveaux êtres, de nouvelles formes d'existence et de vie émergent. La tâche principale de la philosophie des sciences est donc 1. De concevoir une cosmologie qui rende compte de ce caractère fondamental du réel et d'articuler cette cosmologie à l'anthropologie. Quels sont donc les rapports entre cosmologie et anthropologie? Discerner ces rapports est devenu nécessaire depuis que l'action humaine a cessé d'être simplement posée sur la nature, mais qu'elle laisse sur elle des traces irréversibles. Pour les anciens, notamment pour Platon dans le Timée, la liberté humaine n'a pas de prise sur la nature de l'univers. Elle consiste à trouver l'ordre de l'univers et à y conformer son être, d'abord son génie ou daimon, 90a du Timée, et puis, autant que faire se peut, son âme mortelle, Timée 69c. Les options anthropologiques se réduisent à une alternative, se rebeller contre l'ordre du monde ou s'y ajuster. Ce second choix, qui est pour les anciens le bon, exige un travail de connaissance et même, pour Simone Weil, une mystique de la connaissance. Les Lumières au XVIIIe siècle et les philosophies de l'existence au XXe siècle nous ont fait croire que notre liberté avait plus d'étendue que la liberté des anciens et que l'anthropologie pouvait s'affranchir de la cosmologie. D'autres penseurs, croyant suivre Darwin, ont fait de l'homme un animal parmi les autres. Ces deux réductions de l'anthropologie mènent à une impasse. On ne peut ni ignorer les déterminations de l'anthropologie par les sciences de la nature, ni non plus déclarer que l'humanité est entièrement déterminée par son animalité. Selon le Timée, notre situation serait la suivante. Les sciences ne proposent pas d'évidence décisive, il faut prendre parti par un vote, mais cet acte ne change rien à l'univers. Il détermine seulement la conception que le décideur s'en fait. Si son jugement est juste, il entre dans la petite cohorte des amis de Dieu, Timée 53d, qui voit la réalité, Platon dit le soleil, en face. Sinon, il reste dans les ténèbres. De toute façon, l'anthropologie dépend de la cosmologie. Dans le judaïsme et le christianisme, l'anthropologie reste dépendante de la cosmologie. Mais la science n'est plus réservée à une élite, bracu genosti, dit Platon, elle devient une capacité de l'homme en tant qu'homme. Cette décision a des conséquences politiques et sociales considérables, puisqu'il en découle que l'esprit humain peut connaître le réel en vérité et, pour reprendre une formule de Locke et de Husserl, accéder aux choses elles-mêmes. On se fonde ici, répétons-le, sur l'idée religieuse que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Toutefois, Platon dit qu'une folie saisit l'âme quand elle découvre que son sort est lié à un corps mortel. Camus nomme révolte la rébellion contre notre condition, contre l'idée que l'existence est unique et qu'avec la mort, quelque chose d'irremplaçable prend fin. Dans ces conditions, en quoi consiste l'espérance? Il faut distinguer l'espérance de l'âme mortelle et l'espérance du daimon. À la première, on souhaite la santé, les biens de la vie présente et le courage devant les épreuves. Mais le lien entre l'âme mortelle et le daimon, le génie personnel, est indissoluble. La sagesse vise à rendre harmonieuse leur relation. D'où la question : comment éviter que la peur de la mort n'omnubile l'individu et ne fasse ressurgir sa révolte contre sa condition ? L'état d'homme révolté est-il surmontable ? Dans la pensée antique, les lois de la cité fixent ou du moins éclairent la fonction de chacun. Le trouble lié à la conscience d'être mortel est apaisé par la reconnaissance de l'ordre du monde. Sans prise de conscience cosmologique, la folie originaire serait inguérissable. Que notre être soit rivé à sa condition mortelle est la source du pessimisme antique. Fuir notre condition paraît à première vue une porte de salut. Certaines formules de Platon semblent indiquer cette issue, mais c'est un leurre. À la fin de sa vie, Platon dit qu'il faut retrouver l'ouverture de la caverne, regarder le soleil en face, puis retourner dans la caverne qui, du même coup, cesse d'être enténébrée. C'est la préfiguration de l'itinéraire chrétien de l'âme. Est-ce un idéal ou une utopie? Pour Platon, cette voie n'est pas utopique, car elle exprime la nature effective de la connaissance. Connaître, c'est se mettre en marche dans cette direction. L'espérance de Platon, c'est que, ce faisant, on devienne, comme il dit, un ami de Dieu. Ce n'est pas garanti, et Socrate, au moment de mourir, qualifie une telle espérance de « beau risque, kalos kindunos ». La révolution chrétienne ouvre cet itinéraire à tous les hommes au lieu de le réserver, comme la pensée antique, à une élite. L'entreprise restant malaisée, la piété populaire se sépare de la recherche de la vérité. Si nous restions en permanence conscients de notre condition, nous la récuserions. Le divertissement et l'abandon volontaire de la lucidité, il réussit, mais infecte l'âme, car celle-ci n'est pas construite pour le mensonge. Se divertir est une mauvaise solution, même si elle est largement pratiquée. La recherche de la vérité est la seule issue. De fait, la voie chrétienne apporte un fondement à la science, puis, en se laïcisant, elle induit un agnosticisme de facture scientifique, puisque la raison, quand elle opère selon la méthode scientifique, ne peut pas tout connaître, la recherche de la vérité entraîne un agnosticisme de méthode. Celui-ci tend à se muer en agnosticisme ontologique, c'est-à-dire en affirmation qu'il y a un ignorabimus, nous ignorerons, indépassable. Quelle est alors l'espérance de l'agnostique de culture chrétienne ? Le premier pas, c'est de reconnaître l'ordre des choses. La philosophie des sciences remplit cette fonction. Elle initie à la philosophie de la nature, racine de l'anthropologie. Cette ouverture aux autres et au monde devient l'accès à ce que le christianisme nomme la communion des saints. Le second pas pour chaque homme est la recherche de son talent propre. Platon appelait daimon, génie, cette part inspiratrice de l'âme. Saint Augustin nomme prédestinatio, la révélation, ici-bas d'ailleurs, de ce pourquoi l'on est fait. On comprend ainsi pourquoi se couper de l'espérance, c'est se couper de la vérité. En effet, l'espérance est d'abord la capacité de discerner le génie propre dont on est pourvu. Ainsi, la face cosmologique de l'espérance est exploration de l'univers selon les voies de la science, c'est-à-dire refondation de la philosophie des sciences en philosophie de la nature. En conclusion, réaliser la jonction de la cosmologie et de l'anthropologie, comme y est invité l'astronome Timée dans Timée 27a, est un programme que l'humanité n'a pas encore réalisé. Pourtant, l'action qu'elle exerce sur la nature, en modifiant cette dernière de façon irréversible, rend l'anthropologie inséparable de la cosmologie. Comme le dit Cournot, répétons-le, nous sommes devenus les concessionnaires d'une planète. De ce fait, la philosophie des sciences, en devenant philosophie de la nature, n'a pas seulement un rôle contemplatif, elle participe à la venue d'un nouveau régime de la raison, elle participe à la politique qui tente de brosser le portrait et de faire exister concrètement ces responsables de l'espérance humaine que nous devons être.
Toutes les conférences de Bertrand Saint-Cernin sont enregistrées et disponibles gratuitement et en permanence sur le site Canal Académie.